La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Ce qu'on appelle le film de guerre en règle générale, je crois, mais plutôt en scène, pardon, des professionnels de la guerre, des soldats. De plus en plus, c'est le grand mouvement du XXe siècle, c'est que les protagonistes principaux de la guerre sont devenus des civils. C'est toujours un jeu très dangereux, je trouve, de faire de la guerre un spectacle, parce que quand bien même on veut le dénoncer, il y a toujours son côté spectaculaire, si vous voulez, créer de la fascination, quoi. Parce que c'est aussi paradoxal que ça paraisse, la guerre est spectaculaire. Il y a des explosions, il y a de l'héroïsme, il y a de l'action, et c'est un spectacle cinégénique. Enfin, je sais pas s'il y a un danger là-dedans, mais en tous les cas, il y a matière à réflexion. Hein.
D'entendre la voix de Michel Hazanavicius dans La Marche du Monde, le célèbre réalisateur distingué par l'Oscar du meilleur film en 2011 pour The Artist et l'invité d'honneur de la 8e édition du festival War on Screen, autrement dit la guerre à l'écran. Un rendez-vous cinématographique international installé dans l'Est de la France, à Châlons en Champagne, où l'on se retrouve pour voir des films en compétition, mais aussi pour partager des sens thématiques comme l'enfance dans la guerre, un sujet qui nous passionne et pour lequel nous avions déjà eu l'occasion de recevoir notre invitée historienne, Manon Pignot. Bonjour Manon.
Bonjour.
Vous faites partie d'une nouvelle génération de chercheurs qui renouvellent les travaux sur le phénomène guerrier, en s'intéressant notamment aux jeunes combattants. Qu'est-ce que le cinéma peut vous apporter à vous en tant qu'historienne? Est-ce que vous êtes une grande fan des films de guerre, Manon Pignot?
Ah oui, je suis une grande fan des films de guerre, mais je suis... très intéressée par l'analyse que vient de faire Michel Hazanavicius, parce qu'effectivement, le film de guerre, c'est pas seulement le film de soldats et de militaires qui s'affrontent, d'une part, et d'autre part, en tant qu'historienne, moi je suis très intéressée par les représentations des différentes formes de combat et des différents types de populations qui sont impliquées dans les combats. Et le cinéma est un médium et une forme de représentation extrêmement importante qui va prolonger, et en particulier pour cette question de la figure des enfants soldats, qui va prolonger la figure littéraire et qui va lui donner une autre envergure.
Donc vous avez une grande appétence donc pour le cinéma et toutes les formes de représentation du phénomène guerrier, Manon Pignot, ce qui va réjouir nos invités. Ils sont en duplex depuis Radio Mono, depuis Châlons en Champagne, où le palmarès sera dévoilé ce soir. Nous sommes en ligne avec l'initiateur et délégué général de War on Screen, Philippe Backman. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Dites-moi, la guerre occupe beaucoup de place quand même dans la production cinématographique. Dans quel état d'esprit vous proposez ce festival ?
La guerre, effectivement, occupe une place beaucoup plus importante qu'on ne le croyait nous-mêmes dans la production cinématographique. Parce qu'à notre grande surprise, quand on a créé le festival, on était au départ sur une acception sans doute un petit peu limitée, qui grosso modo était sur un périmètre qui était celui du film de genre, du film de guerre, un petit peu qui retrace le fait militaire, en fait la représentation du fait militaire, vraiment les combats, les héros, les victimes, etc. Donc on est dans une acception aujourd'hui beaucoup plus large que cela, puisque on entend évidemment ce qui se passe avant, ce qui se passe de manière très lointaine, les conflits, mais qui est conditionné, ce qui peut se passer aussi après, avec les stress post-traumatiques ou les destins des gens, 20, 30 ans, la transmission, la question de la transmission de génération en génération du souvenir, etc. C'est extrêmement large, ça représenterait peut-être 20% de la production cinématographique globale.
À vos côtés, Laura Koeppel, assistante réalisatrice, notamment aux côtés de Claude Lanzmann, et programmatrice de notre thème de prédilection, Les enfants et la guerre. Laura Koeppel, avant de développer cette thématique tout au long de cette émission, j'aimerais savoir ce qui vous touche dans ce thème.
Bonjour d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois évidemment que la situation des enfants dans des conflits est une des manières les plus aiguës de poser tous les problèmes qui sont liés aux guerres, aux conflits, les problèmes qui sont liés sur le moment du conflit et tout ce qui y advient après, dans des périodes soit de calme ou de paix, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui nous intéressait plus particulièrement, c'est qu'il me semble, à la fois avec l'immensité d'une production cinématographique qui met souvent en scène des enfants dans des situations de conflit, c'est que, en général, ça permet d'avoir un regard très singulier. Souvent, ça porte le regard du réalisateur. Et en plus, ça permet d'aborder des sujets qui sont un peu moins évidents. Donc, c'est à la fois une manière d'aborder de façon très frontale la crudité de ce qu'est qu'un conflit, et en même temps de pouvoir aborder de façon beaucoup plus subtile tous les sujets qui naissent de ces situations, avec aussi la particularité de ce que sont les enfants, c'est-à-dire à la fois d'être plus exposés d'un certain point de vue, en même temps d'avoir une résilience souvent qui étonne les adultes, et puis d'un point de vue cinématographique, de permettre de montrer une sorte de porosité comme ça entre la violence de la réalité et malgré tout une subsistance de l'imaginaire.
Merci Laura Keppel et Philippe Backman d'être avec nous en duplex depuis Radio Mono pour dialoguer avec Manon Pignot, historienne de l'expérience enfantine de la guerre. Alors justement, Manon Pignot, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de ce thème des enfants dans la guerre? Est-ce que ce thème très contemporain est nouveau pour l'historienne que vous êtes?
Non, ça n'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on s'y intéresse aussi massivement. Ce qui est sûr, c'est que la guerre au XXe siècle a pour particularité d'accorder aux enfants une place plus particulière. C'est-à-dire qu'ils sont des victimes, bien sûr, mais ils sont aussi des témoins, mais ils sont aussi des acteurs, parfois. Et donc je pense que c'est aussi ça que reflète la sélection de films proposés par le festival, c'est ces différentes fonctions des enfants dans les guerres qui sont propres au XXe siècle.
Et ce qui est très intéressant dans vos travaux, Manon Pignot, c'est que vous démontez une idée reçue par rapport notamment à l'expression « enfant-soldat ». Vous préférez l'expression « ado-combattant ». Pour quelles raisons?
Alors, en réalité, c'est pas tellement que je préfère une expression plutôt que l'autre, c'est que je propose les deux expressions pour mieux coller aux différentes réalités de l'engagement juvénile dans les guerres. Je m'explique. Enfant-soldat, c'est un terme qui a une fonction juridique majeure. Hein. C'est un terme qui a été élaboré par la Convention de Genève pour protéger les enfants impliqués dans les conflits, impliqués de façon active, c'est-à-dire qui ont pris les armes. Mais enfant-soldat renvoie bien à cette catégorie de mineurs forcés à combattre, c'est-à-dire enlevés, retirés de leur famille par la force, retirés de leur communauté villageoise par la force et contraints à commettre des actes terribles, contraints à combattre. Et pour distinguer cette catégorie qui est la plus nombreuse, la plus massive au XXe siècle et encore aujourd'hui dans les, disons, 250 000, 300 000 enfants-soldats estimés par l'UNICEF, ce qui est un chiffre tout à fait colossal, ce sont les plus nombreux. Mais dans cet immense groupe des enfants-soldats, il y a aussi une catégorie un peu différente que j'appelle donc adolescents-combattants, qui sont ceux qui, un peu plus âgés, adolescents, choisissent pour tout un tas de raisons, et d'ailleurs parfois sous d'autres formes de contraintes qui ne sont pas des contraintes physiques, mais des contraintes idéologiques, ou des contraintes économiques, ou des contraintes sociales, et des contraintes politiques, évidemment, choisissent de rejoindre un groupe armé et choisissent de combattre, et souvent de combattre pour une cause.
Et là, on peut donner des exemples tout au long de l'histoire, justement, Manon Pignot, dès 14-18.
Absolument. Pendant la Première Guerre mondiale, dans tous les pays belligérants, il y a des adolescents qui choisissent de rejoindre le front parce qu'ils considèrent que la cause est juste et que leur place est aux côtés de leurs aînés. Pendant la guerre d'Espagne, il y a des adolescents qui cherchent de toute l'Europe, qui cherchent à rejoindre les brigades internationales, mais aussi d'ailleurs les légions franquistes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des adolescents et des adolescentes combattantes qui choisissent, alors on connaît bien sûr les plus célèbres, ce sont les jeunesses hitlériennes qui ensuite basculent et rejoignent par exemple la Waffen-SS. ou les troupes territoriales pour défendre Berlin en 1945. Mais en réalité, il y en a aussi dans l'autre bord. Hein. Il y a des adolescents dans les maquis en France. Il y a des adolescents chez les partisans yougoslaves communistes. Donc voilà, ce sont ces figures-là que j'appelle adolescents combattants pour les distinguer des enfants soldats, justement pour insister sur cette question très importante sur laquelle on va sûrement revenir aujourd'hui, qui est la question à la fois de la contrainte et du consentement à la violence, et surtout la question de la capacité d'action, de l'autonomie, du choix.
Philippe Backman, en ce qui concerne les civils, hein, parce que les enfants sont traversés par la guerre, hein, ils sont finalement des civils comme les autres, ils sont peut-être aussi des soldats comme les autres, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui dans cette émission. On a entendu les mots de Michel Hazanavicius, hein, les civils sont de plus en plus au centre des conflits. Au début du XXe siècle, notamment en 14-18, les morts c'était grosso modo à 80% des soldats. Aujourd'hui, les morts sont plutôt à 80% des civils. Est-ce que Philippe Backman, dans ces films sur la guerre que vous proposez à War on Screen, on sent cette importance, cet impact sur les civils aujourd'hui ?
Absolument, mais c'est pas neuf non plus, ni dans le cinéma. Présentation des conflits au cinéma, on a tous en tête Jeux interdits, hein, qui n'est pas un film d'aujourd'hui. Pour rebondir sur ce qu'a dit fort justement Manon Pignot, il y a un film qui a été très déclencheur dans le fait qu'on décide de faire ce focus, un film qu'on a déjà passé, mais qui est un film d'archives sur la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Pour les soldats tombés, qui est un film vraiment de cinéastes qui n'utilisent que des images d'archives avec aucune voix de fiction, puisque ce sont uniquement un montage de vétérans de la Première Guerre mondiale, mais qui a été réalisé par Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, donc avec un regard de réalisateur de fiction et non pas de réalisateur de documentaire ou d'historien, et qui est une plongée dans ce qu'était l'expérience des combattants de l'époque. On voit, il a recolorisé et réactualisé les images, et on voit à quel point certains combattants sont des enfants, des adolescents plutôt, effectivement, comme l'a dit très justement Manon Pignot, et on voit à la fois leur engagement au début de la guerre, leur détresse pendant la guerre, mais tout ça de manière extrêmement parlante. Ça, c'est la force du cinéma spectacle, soit volontaire, soit involontaire. Et ça a été très, très déclencheur. Maintenant, effectivement, là, on parle beaucoup, et évidemment, c'est un sujet central, des enfants acteurs volontaires ou involontaires de la guerre, mais il y a évidemment tous les enfants qui ne participent pas et qui sont simplement des victimes passives, qui sont représentées de manière de plus en plus importante aujourd'hui dans la production cinématographique de ces 15 dernières années, sur des conflits très actuels.
Laura Kepel, avant que l'on s'intéresse plus particulièrement à l'un des films que vous programmez, c'est-à-dire The Search de Michel Hazanavicius, j'aimerais que, pour faire écho à cette diversité de situations, hein, que Manon Pignot a un petit peu organisée en deux catégories, j'allais dire, hein, les enfants soldats et puis les adolescents combattants, quelles sont un peu les différentes thématiques qui sont présentes dans votre focus, Laura ?
Ben, disons que je reprends ce qu'a dit Manon Pignot, c'est-à-dire que effectivement il y a une très grande diversité et c'était très important pour nous de faire une proposition au public avec des films à la fois de genres très différents.
Par exemple
Par exemple, si vous prenez un film comme Johnny Mad Dog, qui est une fiction réalisée par un cinéaste qui a par ailleurs travailler sur du documentaire qui se passe dans un conflit avec des enfants. Alors, je reprends le terme entre guillemets, puisque j'ai bien entendu la distinction qu'il faut faire des enfants soldats en Afrique, et par exemple un film comme le documentaire de Jonathan Little, Wrong Elements. Nous sommes sur une même thématique, mais avec deux points de vue et deux genres cinématographiques très différents. Et c'était important aussi de mettre en regard, par exemple, un film qui pourrait sembler totalement hors de propos, comme Les Deux Cavaliers de John Ford.
Bah oui, c'est un western.
De western de 1961. Et oui, et pourtant, il va parler d'enfants qui ont été pris comme captifs très très jeunes par les Comanches, et la possibilité ou l'impossibilité de qu'ils puissent retourner ensuite dans leur famille. Voilà, donc à travers une histoire assez déchirante. Donc vous voyez, un film d'animation comme Le Tombeau des Lucioles de Takahata Isao, donc film japonais de 1996, ou un film, c'est pour vous montrer la diversité, donc un film tchèque de 1964 qui s'appelle Les Diamants de la Nuit, un film magnifique de deux adolescents qui s'échappent d'un convoi de déportés. Donc vous voyez, l'important c'était aussi de montrer la diversité pour que le public, justement, ces questions dont vous avez commencé à parler, le fait que c'est pas la même chose des enfants soldats et des adolescents combattants, on parlera certainement de l'enfance vivant d'Andrei Tarkovski, film soviétique de 62, c'était pour que justement cette réflexion-là, elle vienne d'eux-mêmes aux spectateurs qui vont se créer un chemin à l'intérieur de la programmation qu'on leur propose.
Alors justement, dans la programmation que vous proposez à War on Screen, ce focus sur les enfants dans la guerre, on peut découvrir ou redécouvrir The Search, le film réalisé en 2014 par Michel Hazanavicius, après le succès remporté d'ailleurs par The Artist. Le réalisateur Michel Hazanavicius est l'invité d'honneur du festival War on Screen. Il évoque son regard sur la guerre en Tchétchénie.
Les hasards de la vie m'ont amené à rencontrer des réfugiés tchétchènes. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un petit peu un manque de représentation de ce conflit, un manque de représentation de ce peuple qui a été victime quand même d'une guerre ultra sanglante, très déséquilibrée, et dans une indifférence à peu près générale, enfin de la part de l'Europe, de l'Occident. L'histoire est toujours racontée par les gens qui gagnent les guerres. Donc ils ont perdu la guerre, les Tchétchènes, la guerre a été racontée par les Russes, puisque c'est eux qui ont gagné. Et donc c'est vrai que c'est propagé comme ça une image du peuple tchétchène sanglant, barbare, terroriste, etc. Non pas qu'il n'ait pas eu d'actes terroristes. Il ne s'agit pas de réduire tout le peuple tchétchène à ses actes terroristes. Et à mon sens, les soldats de l'armée russe sont tout autant victimes de leur système que les victimes qui font. Il ne s'agit pas du tout de mettre un signe d'égalité entre les deux, mais en tous les cas, les jeunes gars de 18 ans rentrent dans une machine qui les broie et qui en fait des tueurs. Donc voilà. Donc je trouvais qu'il y avait un effet miroir, justement, qui ne mettait pas à égalité les bourreaux et les victimes, mais il y avait un effet miroir que je trouvais assez intéressant.
Michel Hazanavicius met en scène deux trajectoires d'enfants dans la guerre. Celle d'un jeune russe envoyé sur le front tchétchène et celle d'un jeune tchétchène orphelin dont les parents ont été assassinés sous ses yeux par des soldats russes.
Ben, Hadji, c'est un petit garçon dont les parents sont tués très rapidement en Tchétchénie pendant ce qu'on appelle la deuxième guerre de Tchétchénie qui est arrivée en 1999. Les Russes avaient perdu une première fois une guerre, la Tchétchénie avait créé un État plus démocratique avec une constitution, etc. Puis en 99, les Russes sont revenus en Tchétchénie, ont déclenché une guerre ultra violente. C'est les tout débuts de Vladimir Poutine qui prend le pouvoir le 1er janvier 2000 et qui fait une guerre vraiment absolument sanglante avec sa phrase qui est « j'irai les chercher jusqu'au fond des chiottes », etc. Donc voilà, donc c'est un gamin dont les parents meurent très rapidement dans le récit du film et qui se retrouve jeté sur les routes d'un pays en guerre avec son petit frère qui est un nouveau-né. Il ne sait pas quoi en faire, donc il va le laisser à des gens. Mais donc il se retrouve, comme il existe souvent dans les zones de conflit, des grappes de gamins comme ça qui font tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Et lui, il va avoir la chance de rencontrer une femme qui travaille pour la Commission européenne et qui va un petit peu le protéger.
Tiens, partage si tu veux. Tiens, c'est pour toi. T'inquiète pas, je vais pas te mordre. Hein. Ils sont où tes parents là? Y a personne pour s'occuper de toi? Bon, allez, tiens. Tu veux tout? Vas-y, tiens, je te donne tout. Mais t'inquiète pas, j'irai m'en racheter un. Bon. Je te pose ça là, d'accord? Fais comme tu veux.
Et en miroir, c'est l'histoire de Kolia, Nikolaï, qui lui est un jeune homme, pas encore un jeune adulte, un jeune homme qui se retrouve embringué dans l'armée russe. Et il faut savoir que à ce moment-là, en Russie, les moindres parents qui avaient un petit peu d'argent faisaient tout, absolument tout, pour éviter à leurs garçons d'aller faire la guerre, de rentrer dans l'armée. L'armée russe est connue pour être ultra violente aussi pour ses soldats.
Yura ! Yura !
Il y a une espèce de, on pourrait appeler en France bizutage, mais qui a un niveau, comment dire, meurtrier là-bas. C'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de morts. C'est à base d'humiliation.
Vous montrez dans votre film la formation, la fabrique du soldat dans le camp militaire avant de partir sur le front.
Oui, oui, qui est pareil, qui est un sujet qu'on connaît malgré tout, qui est comment on arrive à prendre un jeune homme, en l'occurrence là qui est un gamin tout à fait normal, et comment on arrive à lui mettre à l'envers tous ses repères, toute sa morale, toute son éthique, de manière à ce qu'il soit capable de tuer en fait. Donc il y a un travail comme ça qui est fait, je le dis sans aucun cynisme, mais qui est bien fait en fait. Et voilà, et on arrive effectivement à créer, je ne sais pas si c'est des monstres, mais à créer des gens capables de tuer sans que ça leur pose plus de problèmes. C'est un long travail, c'est un travail de, il faut abandonner un petit peu son humanité. Et voilà, cette machine, comment dire, créée par l'armée, y arrive très bien.
Dans le film de Michel Hazanavicius, il y a Nikolai, le soldat russe, Hadji, le petit Tchétchène, et Carole, la jeune femme française qui veut l'aider. Carole recueille les récits des femmes tchétchènes car elle prépare son audition devant le Haut Commissariat aux réfugiés, où elle espère montrer que les opérations russes en Tchétchénie ne sont pas des opérations antiterroristes, mais bien une guerre. Le personnage de Carole est interprété par Bérénice Bejo. L'actrice expliquait en 2014 au Festival de Cannes sa vision du film et son rôle dans The Search.
Souvent dans les films de guerre, les Occidentaux sont ceux qui viennent sauver les autres, sont ceux qui savent. Et tout d'un coup, ils ont une histoire aussi qui est propre, ou une histoire d'amour, ou une histoire... il leur arrive toujours quelque chose. Et ce que j'ai aimé dans le scénario, c'est que ce qui est mis en avant avant tout, ce sont les autres, ce sont ceux qui subissent, les civils, leurs personnages subissent la guerre. Et mon personnage est en fait comme les spectateurs, il observe, il écoute, il entend, il digère. Et au bout d'un moment, ce personnage qui n'est pas une héroïne, qui au début on ne sait pas trop qui elle est, petit à petit, avec la rencontre du petit garçon, va se rendre compte que on peut pas arriver dans un pays comme ça et sauver le pays et expliquer comment il faut faire pour sauver le pays. C'est beaucoup plus compliqué finalement, et que peut-être de s'attacher à quelqu'un qui est juste là près de vous et qui vous demande finalement de l'aider, c'est plus important que de vouloir sauver la terre entière. Et parfois il faut voir plus petit pour toucher plus grand.
T'as déjà vu un ours?
Si t'en as vu un, tu dis oui. Et si t'en as pas vu, tu dis non.
Oui.
Non.
Oui.
Non.
Oui.
Mais tu parles là? Tu parles?
Oui.
Mais c'est incroyable. On va pouvoir avoir des conversations. On va pouvoir être copains.
Non.
Bérénice Bejo, dans le film de Michel Hazanavicius, finira par gagner la confiance de Hadji, sans pour autant réussir à défendre la cause des réfugiés tchétchènes. L'actrice césarisée pour sa prestation dans The Artist interprète dans The Search un personnage peu charismatique et bien en dessous de la mission qu'elle s'est donnée.
Oui, c'est un personnage qui est, j'allais dire qui est décevant, mais en fait c'est un personnage, si vous voulez, qui représente un petit peu la communauté internationale dans ce conflit, et donc c'est un personnage qui est quand même d'une grande naïveté et d'une grande impuissance. Donc et c'est un personnage qui n'est pas héroïque en fait, c'est un personnage qui échoue. Alors à titre personnelle, elle a son aventure, elle traverse une aventure, mais sur une mission qu'on aurait pu espérer, c'est vrai qu'elle est en échec, mais ce qui a été vraiment le rôle de la communauté internationale dans ce conflit, qui a été en échec. Voilà, puisque effectivement, il y a le fait d'avoir eu des récompenses pour mon film précédent, qui était The Artist, m'a permis finalement de faire le film à l'équilibre que je voulais, c'est-à-dire que les personnages principaux sont tchétchènes, parce que c'est une histoire tchétchène, et les occidentaux sont des personnages secondaires, parce que c'est une histoire tchétchène, c'est pas une histoire ni française ni américaine.
Tu vois là, c'est une maison avec sa porte. Et puis là, un petit garçon comme toi. Un garçon. Tiens, tu veux dessiner un petit peu ? Bah vas-y. Mais non, mais pourquoi tu gribouilles comme ça ? La maison, elle va disparaître, c'est idiot. Ce qu'il faut, c'est continuer le dessin, je sais pas, tu fais une dame, et puis un monsieur, tu vois ? Parce que si tu gribouilles, il n'y a plus rien. Tiens.
Pour que les auditeurs comprennent bien, on peut peut-être dire juste un tout petit mot sur ce dessin.
Oui, oui, il dessine, elle lui demande de dessiner une maison, et puis il la dessine, et puis en fait, il la raye. Alors, il y a beaucoup de dessins d'enfants, enfin, je crois que c'est quelque chose qu'on connaît, les dessins d'enfants pendant la guerre, c'est toujours très touchant, parce que c'est une manière... Enfin, c'est des témoignages directs, c'est des témoignages oculaires, donc c'est des gens jeunes, très jeunes, ce sont des enfants, mais c'est des gens qui dessinent des avions, des explosions, des exactions, etc. Ils les dessinent avec une espèce de simplicité, de naïveté qui est assez renversante, en fait. La possibilité d'exprimer par le théâtre, par la musique, par la danse, par le corps, par le dessin, par ce que vous voulez, mais exprimer quelque chose, votre colère, votre rage, votre souffrance, c'est le premier pas pour que la résilience, c'est-à-dire la possibilité de survivre, et de, je ne sais pas si c'est se relever, mais en tous les cas, la possibilité de continuer à vivre, en tous les cas, soit possible.
À la fin du film de Michel Hazanavicius, nous retrouvons le personnage du soldat russe, Nikolai. Caméscope au poing, il filme sa guerre, et c'est la dernière image du film.
C'est une image que moi je considère assez terrifiante, parce que la guerre de Tchétchénie est une des premières guerres où justement il y a eu ce type de films qui ont circulé, qui sont des films d'une cruauté absolue, faits par des soldats, et qui ne sont pas des regards portés sur la Tchétchénie comme on pourrait l'espérer, c'est-à-dire avec une distance qui est amenée. Il n'y a aucune distance dans ces petits films, au contraire, ils sont presque vécus comme des trophées. Il y aurait peut-être eu la même chose, si vous voulez, pendant la guerre du Vietnam, si les caméras étaient possibles, enfin étaient accessibles aux soldats. En tous les cas, là, dans une guerre d'une extrême violence, où les soldats sont livrés à eux-mêmes, on est quand même très 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 loin de la Convention de Genève. C'est vrai que l'avancée technologique de la vidéo et la violence de cette guerre donnent ces petits films-là qui sont insupportables.
« Michel Hazanavicius, invité d'honneur du festival War on Screen à Châlons-en-Champagne, nous raconte sa vision de la guerre en Tchétchénie, c'est en 1999, à travers les figures de Hadji, enfant réfugié tchétchène, et puis Nikolai, jeune russe enrôlé par l'armée pour aller combattre en Tchétchénie. C'est un film de fiction extrêmement documenté. Manon Pignot, vous qui êtes spécialiste de l'expérience adolescente de la guerre, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce film en tant qu'historienne ?
D'abord, je crois que c'est un film d'une très grande réussite. Je le dis à la fois en tant que spectatrice et en tant qu'historienne, parce que justement, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, c'est un film de fiction et qui pourtant porte témoignage, justement sans doute parce qu'il il est centré, il est construit. Et on l'a bien entendu en écoutant Michel Hazanavicius raconter un peu la genèse de son projet. Le film est construit sur les regards. Et je pense notamment au personnage de Hadji, du petit garçon, dans l'expérience enfantine de la guerre, dans la confrontation à la violence de guerre. Il y a un effet de sidération sur les enfants, il y a un effet de confrontation à la terreur.
D'ailleurs, il perd la parole.
Il perd la parole, donc il y a un mutisme traumatique. Et puis, il a tout le temps les yeux assez écarquillés. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les dessins d'enfants qui portent témoignage de l'expérience de guerre enfantine tout au long du XXe siècle. C'est quand les enfants se représentent eux-mêmes, ils se représentent avec les yeux comme ça, très écarquillés, les cils dressés. Et ça, c'est une des manières graphiques de dessiner la terreur, de dessiner le choc, voire le trauma. Or, c'est exactement ça qui s'est passé en Tchétchénie. C'est l'instauration par les troupes russes d'un régime de terreur et d'arbitraire absolu où les civils sont abattus comme ça, sans aucune justification évidemment, où les femmes sont massivement violées, où les maisons sont détruites, incendiées, etc. Donc je pense que la force du film The Search, c'est ça d'abord, c'est d'avoir restitué ce climat de terreur et ses effets traumatiques sur les individus qui le subissent, que ce soit les civils à travers la figure du petit garçon ou que ce soit les jeunes soldats forcés à combattre à travers la figure de Kolia.
Donc des figures d'enfance, d'enfants ou d'adolescents, il y en a d'autres dans le focus proposé par Laura Koeppel, réalisé par Jean-Stéphane Sauveur. Johnny Mad Dog met en scène Johnny, surnommé Mad Dog, le chien fou, un enfant soldat de 15 ans, armé jusqu'aux dents, entouré de partenaires, tous aussi déjantés les uns que les autres. Ensemble, ils volent, ils pillent, ils abattent tout ce qu'ils croient sur leur route, ce qui n'est pas sans rappeler la seconde guerre civile du Libéria et les forces du démon de l'ex-chef de guerre emprisonné Charles Taylor, une milice qui a massivement tué, torturé et violé de 1989 à 2003.
Un homme de 30 ans au Libéria, qui a toujours vécu au Libéria, a vécu 15 ans de guerre.
Tu sais tirer avec une arme maintenant, Loblita. Tu sais ce que j'ai dans le cou? C'est ma protection. Les balles volent autour de moi. Elles ne peuvent pas m'atteindre. Cela me rend invisible. Tu sais ce que j'ai dans le dos, là? Les balles ne peuvent pas m'atteindre. C'est pourquoi je suis toujours vivant. Mon général, Never Die, il a une protection si on lui tire dessus. Les balles se transforment en eau. J'étais très petit, très petit. J'ai commencé à me battre à 10 ans. J'ai commencé là. J'ai oublié mon nom. Je n'ai pas de famille.
Oh,
Johnny Mad Dog est une fiction réalisée en 2008, tandis que Wrong Elements est un documentaire réalisé en 2014 par Jonathan Little, le très célèbre auteur du livre Les Bienveillantes, prix Goncourt 2006. Toujours fasciné par la question des crimes politiques, l'ex-reporter de guerre choisit de retourner en Ouganda pour filmer les anciens membres de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, dont le maître à penser et le chef de guerre était Joseph Kony. Pendant plus de deux heures, les quatre personnages de Wrong Elements retrouvent la mémoire de ce qu'ils étaient enfants dans les rangs de la LRA.
C'est pas tellement le fait qu'ils soient des enfants, c'est le fait qu'on les ait pris de force pour en faire des soldats et des tueurs et des massacreurs qui m'intéresse. Pour moi, je ne vois pas, à part justement la question de l'âge, je ne vois pas une différence majeure entre ça et la conscription, par exemple, telle qu'elle a été longtemps pratiquée en Europe, quand on prenait des gamins de 18 ans, effectivement un peu plus vieux, pour les envoyer dans des boucheries absolument innommables. Là, l'LRA et ce type de mouvement rebelle qui utilise les enfants, c'est spécifique puisqu'ils les prennent très jeunes pour les formater, pour faire une forme de lavage de cerveau. Après, la LRA est particulièrement intéressante comparée à beaucoup d'autres rébellions africaines qui utilisent des enfants parce que eux, c'est une secte très puritaine, ils n'utilisent pas de drogue, ils n'utilisent pas d'alcool. C'est complètement interdit sous peine de mort, ils n'ont même pas le droit de fumer des cigarettes, donc c'est très 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 strict. Et tout fonctionne avec des codes, des règles hyper précises, et donc du formatage idéologique. Donc les enfants sont vraiment pris dans le mouvement par la terreur, par la force, et ensuite par l'idéologie et la religion.
Vous savez, moi en ce qui me concerne, la première personne que j'ai tuée était une dame. Ils m'ont dit de la tuer. Je n'ai pas eu le choix. Si tu essaies de refuser, ils te tuent immédiatement. Tu n'as pas le choix. J'ai d'abord tué une dame. J'ai d'abord tué sept dames. Ils m'ont fait tuer un tas de gens. Mais cette dame était la première. Après, je me suis habitué à tuer. Tuer n'était plus un crime après. Tu tues qui tu veux. C'est comme si on était possédé par des esprits. Tu finis par tuer n'importe qui. Si tu n'aimes pas une personne que tu as enlevée, tu la tues. C'était vraiment terrible. La vie n'était vraiment pas facile.
Moi, j'ai voulu éviter, évidemment, ce regard surplombant ou condescendant qu'il y a malheureusement souvent dans les films sur l'Afrique. Et l'idée, c'est que ce sont des gens, quoi, tout simplement. Et nous, on est des gens, et eux sont des gens, et on se met à niveau les uns des autres, et on travaille ensemble. Je pense que le fait de faire le film, peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour certains d'entre eux, était profondément thérapeutique. Et que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont accepté de le faire. Nighty le dit très clairement dans le film. Elle dit « Avant, je pensais que j'étais une sous-merde, et grâce à ce film, j'ai compris que j'étais quelqu'un d'important et que j'avais quelque chose à donner au monde. » Et elle le dit cash, et c'est, moi, je trouvais ce moment absolument étonnant.
Les enfants soldats au cœur de la programmation de Laura Koeppel. Pour ce festival War on Screen, Laura Koeppel, ce sont des films extrêmement forts, documentaires, fiction, qui questionnent cette figure de l'enfant soldat. Qu'est-ce qui vous a touché plus particulièrement dans The Wrong Elements, justement, de Jonathan Little, qui lui propose un film très très long? Est-ce qu'on a besoin de ce temps-là et pour comprendre quoi, au fond?
C'est une nécessité intrinsèque que nous passions ce temps avec ces personnages, qui se dévoilent petit à petit, qui reviennent sur les lieux où ils ont été à la fois effectivement des enfants captifs et soldats, du coup qui reviennent ensemble, ils sont trois, et puis au fur et à mesure du film, on perçoit véritablement tous les enjeux. Il y a cet homme, Dominique Ongwen, emprisonné par la Cour pénale internationale, dont je crois qu'on attend le résultat du jugement en ce moment, puisque les plaidoiries ont eu lieu juste avant le confinement. Donc vous voyez, la complexité des questions, la délicatesse avec laquelle il filme ces personnages, ces personnes, ces jeunes gens, c'est ce qu'il dit là, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir un regard condescendant, il ne s'agit pas d'appliquer des jugements, des codes, etc. Il faut les laisser exprimer tout ce qui se passe, voir aussi comment les autres apparaissent. Et puis cette femme à la fin qui explique que oui, on a kidnappé ses fils et qu'on a tué ses autres enfants, et qui en même temps dit sur cette question de coupable ou pas coupable, par rapport à Geoffrey par exemple, dont elle dit mais c'est peut-être, ça aurait pu être mon fils kidnappé. Donc c'est des questions extrêmement complexes auxquelles il ne s'agit pas d'apporter une réponse combinatoire, mais justement laisser le temps à chacun d'entre nous de faire le chemin avec ces quatre jeunes gens. Comment dire que la caméra de Jonathan Little, avec lesquels il a noué suffisamment une confiance suffisamment forte et délicate pour qu'ils apparaissent dans toute leur complexité et avec toute la complexité de leur histoire à l'écran. Et ça demande presque un engagement que de les laisser se dévoiler devant nous. Ça demande du temps cinématographique.
Philippe Bachmann, au tout début de cette émission, Michel Hazanavicius s'est interrogé sur la dimension spectaculaire de la guerre. Et au fond, en tant que réalisateur, est-ce qu'on doit faire de la guerre un spectacle? C'est peut-être l'option qui a été plutôt choisie dans Johnny Mad Dog. Il y a aussi ça que vous montrez au Festival World on Screen.
On essaie justement de diversifier les points de vue et de montrer l'ensemble des positionnements possibles de l'artiste cinéaste dans toute sa diversité, dans toutes ses diversités de positions humaines, pour le meilleur, pour le pire. Certains, effectivement, sont dans des représentations plus spectaculaires, d'autres moins, mais ça reste toujours un regard d'artiste et c'est extrêmement important. La notion de spectacle, on peut la prendre au sens strictement d'un spectacle ostentatoire, mais de toute façon, on est quand même dans un regard d'homme de spectacle, d'homme ou de femme de spectacle, d'artiste qui a un regard qui est celui de l'artiste. Alors c'est vrai que Johnny Mad Dog prend un parti qui est extrêmement spectaculaire et d'une certaine manière ostentatoire, qui se regarde et qui tourne un petit peu en rond lui-même, alors que on a chez Jonathan Little, évidemment, comme on vient de le dire, un positionnement radicalement différent, mais qui reste quand même celui de l'artiste. Et Michel Hazanavicius, lui, je dirais, va encore plus loin, comme il le dit, c'est-à-dire que quand il fait allusion, et vous y avez également fait allusion, à l'utilisation de la caméra, des caméras personnelles, il met en abîme cette complexité de qu'est-ce qu'on filme quand on filme la guerre, qu'est-ce qu'on montre comme image, comment on décide de montrer, qu'est-ce qu'on décide de montrer, de quelle manière, pour dire quoi. Et il y a un personnage qui est en creux, qui n'existe pas dans le personnage d'Hazanavicius, mais dont il parle beaucoup, qui est celui du reporter de guerre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce film est aussi pour lui un hommage à un endroit très particulier de gens qui filment la guerre, qui sont les reporters de guerre, les grands reporters de guerre. Du coup, le fait de mettre en parallèle Johnny Mad Dog et Wrong Elements permet aux spectateurs de se faire une idée aussi de la manière dont les artistes se positionnent eux-mêmes et utilisent l'image pour délivrer un message ou un autre.
Comment documenter justement cette question des enfants dans la guerre? C'est aussi votre question, Manon Pignot, en tant qu'historienne. Dans vos travaux, vous faites référence justement aux images, aux films, parce que c'est un sujet qui n'a pas encore été énormément travaillé par les historiens, un sujet plutôt novateur en histoire. En ce qui concerne justement ces adolescents combattants qui sont représentés dans les films dont on a passé aujourd'hui des extraits dans La Marche du Monde, quel est leur avenir? Qu'est-ce qu'ils font après? Parce que c'est la question qu'on se pose aussi, et c'est une question qui est abordée d'ailleurs dans le documentaire de Jonathan Little. Est-ce qu'on reste un méchant enfant soldat toute sa vie, pour parler simplement?
Non, effectivement, Geoffrey, hein, l'un des personnages du documentaire de Jonathan Little, évoque au tout début du film, quand il discute avec sa mère, qu'il a retrouvé ensuite, il évoque ce qu'il appelle le centre de réhabilitation. Donc c'est effectivement, pour ces anciens enfants soldats, des lieux de transit qui leur servent aussi de passerelle entre le temps de la guerre et le temps de l'après-guerre, où ils vont être pris en charge par des éducateurs, par des psychologues, qui vont leur permettre de mettre des mots parfois sur ce qu'ils ont pu vivre, de mettre des mots sur leur propre traumatisme, parce que le trauma, c'est le trauma de la victime qui subit la violence, mais c'est aussi le trauma du bourreau, de celui qui inflige la violence.
Ça veut dire qu'on est les deux à la fois.
Ça veut dire qu'on est les deux à la fois. En tout cas, dans le cas des enfants soldats, c'est évident. Il ne s'agit pas de trancher pour savoir s'ils sont des victimes ou des bourreaux. Ils sont les deux, puisqu'ils ont à la fois subi une violence terrible et ils l'ont, c'est ce que dit très bien Geoffrey, infligé aussi à leur tour, contraint et forcé. Et ces gestes massifs et nombreux de violence laissent forcément des traces. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que cette figure des enfants dans les guerres est tellement efficace au cinéma. Parce que elle est d'une certaine manière cette figure de l'enfant, qu'il s'agisse de l'enfance d'Ivan de Tarkovsky ou des vrais enfants entre guillemets bien réels devenus grands filmés par Jonathan Little ou de ce petit garçon tchétchène filmé par Michel Hazanavicius ou de ces personnages de films d'animation, parce que je vais pas citer tous les films de la programmation, mais cette figure de l'enfant dans la guerre, quel que soit son rôle et sa fonction d'ailleurs, je trouve qu'elle a un pouvoir de, peut-être pas d'abolition complète, mais en tout cas de rétrécissement des distances temporelles, des distances géographiques, des distances linguistiques. Il y a quelque chose de tout à fait fascinant. C'est une impression d'ailleurs un petit peu trompeuse, parce que chaque conflit a sa spécificité historique, a ses problématiques propres, mais en même temps, c'est d'une efficacité. Enfin, il y a un langage du corps enfantin dans la guerre, qui est un langage presque universel. Et donc, quand on revoit l'enfance d'Ivan aujourd'hui, et qu'on voit le même jour ou le lendemain ou le surlendemain le documentaire de Jonathan Little, bien sûr que on voit les différences entre les soviétiques de la Seconde Guerre mondiale et les enfants soldats d'Ouganda dans les années 90-2000. Et en même temps, on voit aussi toutes les passerelles qui nous sautent aux yeux.
Merci beaucoup Manon Pignon, merci beaucoup à Philippe Backman et à Laura Koeppel pour cette formidable programmation. Nous annoncerons bien sûr le palmarès de War on Screen sur le compte Twitter de la Marche du Monde, et en attendant, je vous conseille vivement de lire les excellents ouvrages de Manon Pignon, L'appel de la guerre, des adolescents au combat en 14-18, c'est aux éditions Anna Moza, et également aux éditions Anna Moza, le livre de Zeran Girardeau, Déflagration. War on Screen, les ados au combat. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Denis Cambiagi et Victor Hull, avec la complicité d'Elisabeth Lequéré et Sophie Torlotin, coproductrice de l'émission Tous les cinémas du monde sur RFI. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, podcaster. Cette émission, c'est la vôtre.